Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous recevons dans « Votre santé, un trésor » une nouvelle fois le docteur Claude Gervais qui est réanimateur et qui va nous parler de la Société de réanimation de langue française, très peu connue par le grand public et par les auditeurs, hein, la SRLF, et de son implication, donc de Claude, hein, de son implication au sein de cette société savante. Bonjour à toi Claude et merci d'être avec nous encore aujourd'hui. En premier lieu, peux-tu nous préciser ce qu'est la Société de réanimation de langue française créée le 16 janvier 1971 et qui comptait en 2020 5193 membres ?
Bonjour à toi, merci de ton invitation. Ben, écoute, la SRLF, c'est une société savante. Comme toutes les sociétés savantes en médecine, elle a pour objectif de faire avancer la spécialité, d'être une interface avec les structures ordinales et avec les structures politiques, en fait. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est l'expression de tous ces membres.
Alors, la structure, c'est une association, loi 1901.
Oui, je pense que c'est une association.
C'est, c'est ce que j'ai lu, moi, c'est dans mes recherches.
Et elle fonctionne avec des commissions.
Oui.
Commission de la recherche, commission de l'évaluation, commission d'éthique, qui a pris une place assez importante... à la SRLF, comme dans toutes les autres sociétés savantes qui ont été confrontées aux mêmes problèmes éthiques qu'on a essayé de résoudre en interne.
Et on va en parler parce que justement, on est au cœur du problème.
Dans sa revue, comme toutes les sociétés savantes, elles ont un organe de presse, peut-être même maintenant plus que ça, un site internet.
Oui, un site internet.
J'utilisais pas. Et une revue qui est maintenant publiée peut-être en anglais, je ne sais pas, mais il n'y a plus de revue en français.
Oui, mais l'anglais médical est relativement facile. C'est comme l'anglais.
Je pense qu'il doit y avoir encore une revue en France. Moi, j'ai publié dernièrement, avant ma retraite, une grande revue en collaboration avec l'ASFAR, qui est la revue de notre alter ego anesthésiste-réanimateur, sur la qualité des soins, les indicateurs de la qualité des soins.
Voilà, alors j'ai lu que les objectifs de société savante principaux sont l'amélioration des soins en urgence vitale et en réanimation et la promotion de ces derniers auprès des organismes officiels et publics. Hein, oui. Donc tu parlais des politiques, des ordinaux, des politiques. Mais la SRLF tente aussi d'accroître ses relations avec d'autres associations ou sociétés de réanimation dans d'autres pays, notamment avec les pays francophones, afin de développer la politique officielle de la francophonie. Peux-tu nous en dire plus et quelles sont les relations francophones avec les pays africains, etc.
Est-ce que ça... Je vais te choquer, mais je pense que c'est une partie du cahier des charges que je connais peu. À mon avis, c'est presque du tourisme, quoi. Je pense que c'était sympa d'aller au Maroc, en Angleterre, j'imagine. Pas en Angleterre,
non, pas en
Tunisie.
Angleterre, mais il y a des Anglais qui parlent français.
Oui. Je pense que vraiment le côté francophone, ça y était, hein, ça l'est encore, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, je vais te dire, c'est que ces sociétés savantes ont pris un poids important dans le cadre de la judiciarisation de la médecine, parce que c'est elle qui rédige les recommandations pour la pratique clinique, les conférences de consensus. Je trouve qu'on est assez protégé dans notre spécialité. Il y a des spécialités qui, les gens ne les prennent plus. Hein, en échographie, gynéco-échographie, c'est terrible, paraît-il. On n'a jamais eu vraiment de procès, mais quand même, les conférences de consensus, les recommandations d'experts des sociétés savantes sont opposables si des patients portent plainte. Quoi.
Oui, c'est-à-dire que si un patient est pris en réanimation médicale, ça se passe mal, bon, il décède ou pas, mais il peut y avoir des séquelles, que lui-même ou sa famille se retourne contre le médecin. Alors d'abord, bien souvent, ce sont des services hospitaliers. Hein. Oui. Donc, le médecin est couvert par son administration, puisqu'il est salarié, au niveau, dans un premier temps, je vois que tu fais oui. la moue, enfin, non, mais dans un premier temps, au niveau civil, puisque s'il y a une demande de réparation de préjudice, il est couvert par son administration. Au niveau déontologique, responsabilité ordinale, il n'est pas inquiété, puisque c'est pas détachable du service. C'est-à-dire qu'un praticien hospitalier n'est embêté au niveau déontologique que si c'est détachable du service. Un exemple criant, mais bon, où tout le monde va comprendre, si un praticien hospitalier viole une consoeur, ben c'est détachable du service, il n'y a rien à voir dans le service. Donc là, déontologiquement, il peut être poursuivi, sa responsabilité déontologique est engagée. Alors que si jamais il fait un acte qui peut être déontologiquement pour un libéral est répréhensible, du moment que c'est attaché au service, il faut que ça soit l'acte détaché du service. Mais il y a un problème que les gens ne savent pas trop, et que les médecins, et là c'est important d'avoir un consensus, c'est au niveau pénal. C'est-à-dire que une attaque pénale sur un praticien, le directeur, il se dit c'est votre problème, c'est plus le mien, quoi. Hein. Et donc là, les sociétés savantes sont très très importantes parce que il y a des consensus internationaux maintenant avec l'ANAES, etc., enfin des structures. Il y a ce qu'on appelle l'opposabilité, c'est-à-dire que tu l'as bien dit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites, comme les protocoles, une bonne conduite est écrite, et si le praticien prouve par le dossier médical qu'il faut remplir, qu'il a suivi ses recommandations de bonne conduite, et ben il est inattaquable. C'est pas une vision de la famille où on dit oui mais vous n'avez pas été, il faut le prouver. Donc si dans le dossier médical tout est inscrit, etc. Donc c'est extrêmement difficile en réanimation médicale parce qu'évidemment les patients ils connaissent pas trop et puis il y a le dossier qui est extrêmement complet. Donc c'est quand même très important. Et donc l'association défend la bonne conduite des praticiens. Et les protocoles sont très importants en réanimation médicale.
Alors, je pense que je voudrais mettre un petit bémol. On n'a jamais eu vraiment de plainte. Moi, j'ai jamais eu de plainte. Je crois que Christian Mangler en a eu une. Ça lui a pourri la vie un petit peu parce qu'il travaillait aux urgences. Il y a un patient qui était sorti des urgences.
Ah voilà, ça, les urgences, c'est différent.
Hein. Mais en réa, les gens sont très contents que leur patient soit en réa. Moi, ce que je retiens...
C'est normal. Ouais.
Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, quand ils sont en réa, il y a les machines, il y a du monde Ils sont contents. Je pense que, bien sûr, on a des protocoles de soins. On aurait pu avoir des plaintes avec les décisions de ne pas réanimer les patients. J'en viens au dernier point, je ne sais pas si tu veux l'aborder.
On va l'aborder. Après la pause musicale, on va l'aborder, parce que c'est un sujet important.
Mais il y a eu des études qui ont montré, en Amérique et chez nous, que 50% des décès en réanimation sont précédés par des décisions de limitation ou d'arrêt de soins.
Oui.
Bon.
Et puis c'est collégial quand même. C'est-à-dire que
oui, mais ça ne l'était pas tellement à l'époque. Pas, ouais. Les juges, il n'y a jamais eu de plainte.
Oui.
Pratiquement jamais eu de plainte.
Ouais.
Maintenant, c'est opposable. Maintenant, il y a la loi.
À la loi, on va en parler après la pause médicale parce que c'est fondamental
Mais avant ça, je pense que la réa était relativement protégée.
Oui, ça je pense aussi. Hein. Alors, je vous propose une trêve musicale avec le concerto pour une voix de Saint-Preux qui date de 69. Rappelons que Saint-Preux est un pseudonyme de Christian Langlade, un compositeur pianiste et chef d'orchestre français. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Claude Gervais, et je rappelle, Claude est réanimateur médical. Alors, nous avons parlé de la SRLF, c'est-à-dire l'Association savante des réanimateurs médicaux, qui a de multiples actions comme des conférences de consensus au niveau international organisées en partenariat avec plusieurs autres sociétés ou associations pour la réanimation, la réanimation médicale, la publication d'une revue bimestrielle, l'organisation de formations, de séminaires et de congrès, l'élaboration de référentiels, on en a parlé, de recommandations, de bonnes pratiques dans le domaine de la réanimation ou des urgences. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment la SRLF et toi, en tant que responsable, parce que tu l'as été pendant plusieurs années, de la commission d'évaluation de la SRLF, j'ai des difficultés pour SRLF. Avez-vous vécu les différentes lois bioéthiques? Parce que vous êtes investi dans le bioéthique, parce que vos patients sont des patients potentiellement décédé. Donc, comment tu as vécu ça, toi qui étais responsable?
Alors, moi j'étais responsable de la commission d'évaluation. J'étais surtout en charge de l'organisation de ce dont tu viens parler, toutes les conférences de consensus, les réunions d'experts, tout ce système pour la qualité des soins. Et pas sur la bioéthique. Maintenant, je m'intéressais beaucoup à la bioéthique, personnellement, et donc je suis très au courant de ce qu'a fait notre société dans ce domaine pour précéder et faciliter l'adoption de la fameuse loi Leonetti. Parce qu'en fait, ça partait de l'idée, souvent exprimée par François Lemaire, qui était un des élèves de Maurice Rapin à Henri Mondor, Paris, qu'il fallait lutter, nous, contre l'obstination déraisonnable que souhaitaient les patients et les familles. Tu vois ?
Oui.
Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et on avait peur. Et moi, je revois toujours François Lemaire, le professeur Lemaire, me le dire, parce qu'on se voyait souvent. Il disait que si jamais il y avait une plainte sur une procédure d'arrêt de soins, de limitation de soins, un médecin réanimateur, il risque 30 ans.
Ah oui, oui, oui. C'est très grave.
Il disait ça tout le temps. Il risque 30 ans. Il poussait. On faisait un peu un groupe de pression pour qu'on puisse...
Oui, ça soit encadré par une loi.
Oui, et que ça soit encadré par une loi pour pas qu'on se retrouve en taule, même s'ils savaient que les juges étaient assez bienveillants quand même, parce que les gens ne sont pas idiots, hein. Tout le monde savait ce qui se passait.
Oui, mais quand on voit les tableaux cliniques que vous prenez en charge, automatiquement, on ne peut pas...
Mais tout le monde savait aussi que la réa, il n'y avait pas beaucoup de lits. C'était un peu le canot de sauvetage. Hein. On est dans l'éthique avec la théorie du canot de sauvetage.
Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand on est en réa... Alors, la réa chirurgicale, ça a pris une intervention lourde. Hein, le patient ne peut pas se lever de la table, quoique maintenant, avec l'ambulatoire, ça se fait, mais on a des effets secondaires. Mais il ne peut pas se lever de la table, donc il y a une réanimation post-chirurgicale. On le comprend parce qu'il y a un geste invasif. Les gens, on voit bien, les chirurgiens ne connaissent pas l'anesthésie, mais en réanimation médicale, c'est difficile à saisir parce que c'est une, on l'a dit à plusieurs reprises dans les émissions précédentes, c'est une déplétion des fonctions vitales essentielles, cardiaques, rénales et hépatiques, qui fait que ça ne se voit pas trop, quoi. Et puis il n'y a pas de geste à faire. Non. Donc il y a une dégradation, si vous me permettez, de l'état du patient qui fait qu'il n'y a que les réanimateurs qui peuvent prendre les choses en charge. Alors, si le patient est trop dégradé, excusez-moi de ce terme, mais bon, le réanimateur ne peut pas faire des miracles, hein, mais est obligé ou de limiter ou d'arrêter les soins. Quoi, hein.
Oui, oui.
Donc, ça peut être contesté, ça. Hein. Donc, il faut que ça soit encadré, qu'il y ait des conduites d'opposabilité, c'est-à-dire que le médecin dise, ben, dans ce cas, on ne pouvait pas parce que ceci, parce que cela, en argumentant, suivant des consensus dont la société était fait. Donc c'est important. Donc la loi Leonetti, vous avez été partie prenante pour...
tout à fait.
Voilà, pour la...
Main dans la main...
Tu as rencontré Leonetti toi-même personnellement?
Non. Mais je connaissais bien les leaders d'opinion dans notre société savante, ainsi que ceux dans la SFAR. Il y avait un accord entre les deux sociétés savantes pour proposer ce qui est devenu la loi néo-diététique, c'est-à-dire l'acronyme LATA, limite et ou arrêt des thérapeutiques actives.
Voilà, parce qu'on parle beaucoup de la loi néo-diététique, excusez-moi, en soins palliatifs. Mais en réanimation médicale, ou même chirurgicale, hein, si la chirurgie c'est mal, ou si c'est une chirurgie lourde, etc., c'est l'arrêt des soins ou la continuité des soins est peu évoqué. Donc c'est intéressant, et c'est ce qui m'intéresse aussi d'aborder, c'est parce que vous êtes quand même devant une spécificité, quoi, hein, et que le grand public et la majorité des auditeurs ne savent pas, quoi. C'est les soins palliatifs, Léonetti. Non, pas que, il y a la réanimation.
Non, pas que.
La réanimation, ce n'est pas des soins palliatifs. On peut sauver des gens, donc ça n'a rien à voir avec les soins palliatifs. C'est une thérapeutique, une prise en charge particulière. Bon, et après la loi Leonetti, elle a été beaucoup décriée, peu appliquée.
Alors, il y a eu justement un historique fait par René Robert qui expliquait dans une revue que l'impact factor, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont lu la loi Leonetti, est beaucoup plus important que ceux qui ont lu la loi Leonetti-Claes, la deuxième.
La deuxième, ouais. Ça je suis d'accord avec toi.
Voilà, donc actuellement je pense que la loi qui va sortir, elle ne nous concerne pas trop. Je ne pense pas qu'elle va revenir sur ce qui peut se faire de manière collégiale en réanimation. Elle concerne, j'ai lu ce matin les derniers éléments d'information, elle concerne vraiment la possibilité de faire une dose létale, mais ça ne concerne pas la réa.
Voilà, je remets en contexte l'enregistrement de l'émission. Hein, donc, on est en début d'été 2026. Oui. On parle de la loi de l'aide d'amoureux qui a été déjà bien discutée, votée pour l'Assemblée. Et ça va être ma prochaine question. Hein, la loi n'est pas encore votée, pas applicable. Mais vu ton expérience aussi bien de praticien que de responsable de société savante, que penses-tu de la loi sur l'aide à mourir en gestation actuelle qui va sûrement aboutir?
Alors, la dernière nouvelle, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ton portable, mais les députés ont voté.
Mais cette nuit, oui.
Cette nuit.
On va voir ce que ça va devenir. Mais...
quelque chose que tous les médecins attendaient,
ouais.
Ce qui est assez incroyable, qu'il fallait que cette loi ne demande pas aux médecins d'injecter la dose létale.
Voilà, alors là, on est dans l'actualité vive.
Ah, c'est vraiment l'actualité.
Si vous nous écoutez dans 10 ans, ça va vous faire étrange. Mais là, on est sur un scoop, c'est-à-dire que dans la nuit, on est en 2026, au mois de juin, dans la nuit, les députés ont voté un amendement comme quoi les médecins n'avaient pas le droit d'injecter de doses létales. Donc réduisez...
Ne devaient pas.
Je ne vais pas les lois parce que ça s'est passé cette nuit, oui. Je n'ai pas le texte. Oui, hein, oui. Donc vous me corrigerez, vous pourrez m'engueuler après, tout. Mais là, on est dans l'information lorsqu'on enregistre. Donc les médecins ne peuvent pas. Et pour l'instant, je pense que ça va changer, on verra. Alors ça, c'est quand même une révolution, parce que d'abord, qui va le faire? Et donc, on se dirige vers une prise personnelle ou une auto-injection.
Auto-administration.
Voilà. Et donc, c'est quand même particulier. C'est plutôt une aide au suicide assistée qu'une aide à mourir. Ce qui change beaucoup de choses, parce pour un médecin, c'est un débat que j'ai eu avec des religieux, des gens qui ont pensé l'éthique, mais quand même, quand on fait médecine, en principe, c'est pour aider et sauver les gens, quoi. Hein. Alors, après, c'est difficile. Bon, chacun a ses opinions. Moi, je connais des médecins qui sont pro-euthanasie, qui le disent, hein, c'est-à-dire qui militent pour l'euthanasie. Hein, donc, chacun a sa... Mais actuellement, le code de déontologie, donc on doit respecter quand même. Hein, en France, on conduit à droite et pas à gauche, hein, donc on respecte le code de la route, même si on n'est pas d'accord. Hein, mais c'est con. Donc, il va y avoir une... Alors, je trouve, mais ça, c'est une... En tant qu'ancien ordinal, mais c'est une opinion personnelle, que l'ordre ne s'exprime pas trop. Enfin, il s'exprime auprès des médecins, on reçoit des lettres, mais ne s'exprime pas au niveau du grand public. Enfin, je ne sais pas si tu as entendu, toi, l'ordre s'exprimer à ce sujet. Il s'exprime au niveau des... Mais plus par crainte, ou par, comme tu l'as dit, par peur de procédure, que par éthique et par bioéthique, par déontologie. Donc, bon, ça serait intéressant d'avoir un avis ordinal précis, quoi. Hein. Et alors, pour accéder à l'aide à mourir, le malade devra remplir 5 conditions. Alors, jusqu'à présent, quoi. Hein. être majeur, au moins 18 ans, être français. Alors ça, ça m'a fait toujours beaucoup rire, hein, parce que les Français ont droit à des lois, mais les gens qui vivent et payent leurs impôts n'ont pas... Alors pourquoi celle-là, pas d'autres ? Enfin, bon, là, je vous laisse réfléchir. Donc être français ou résider étranger régulier et stable en France, être atteint d'une affection grave et incurable, quelles sont la cause qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale ? Quelle est ton opinion sur ces critères ? Bon, ce n'est pas trop en rapport avec la réanimation, parce que la réanimation, vous êtes en face de critères totalement différents, qui sont plus de soins thérapeutiques. Enfin, ta réflexion sur ces critères ?
Ben, le critère principal, c'est le problème de qu'on a affaire à des gens qui sont supposés être compétents, conscients, et qui ont envie d'exercer leur autonomie. Voilà. En fait, le fond, la motivation, c'est ça, quoi. Ils sont soutenus par un grand courant philosophique qui est connu, hein, et auquel s'opposent la plupart des religions, effectivement. Mais bon, il n'y a pas que la religion qui fait les lois, c'est sûr. Moi, je ne sais pas ce qui va sortir, parce que cette nuit, comme tu l'as dit, il s'est passé ça, mais il y a combien de députés qui ont voté. Ce qui m'étonne le plus, c'est que le président de la commission des affaires sociales, il devrait être content, puisqu'il avait dit, M. Valletoux avait dit qu'il signerait ce texte à condition qu'on priorise l'auto-administration du patient et pas l'implication des personnels soignants. Quoi.
Ouais, oui.
Donc je veux dire, je pense que c'est parce que c'est un amendement qui a été voté et écrit par le Rassemblement National. Quoi. Il y a une histoire politique foireuse dans cette histoire. Donc je crois qu'on ne peut rien dire là-dessus. Quoi.
Voilà, il faut avoir, vous verrez, vous, quand vous nous écouterez en podcast, vous aurez le futur de notre problématique actuelle. Enfin, c'est une réflexion sur, d'une manière générale. Hein. Et bon, admettons ça, faisons de la médecine et de la bioéthique dans le futur. Comment tu vois, dans 5-6 ans, la vision d'aide à mourir ? Alors, j'ai rencontré, par exemple, lors de voyages, de jeunes Canadiens. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame qui vit en France, mais dont la famille est au Québec. Donc, évidemment, qui est canadienne, dont le papa est rentré en EHPAD, l'équivalent de nos EHPAD. Donc, la première question, en disant, vous voulez qu'on en finisse quand, quoi? Je veux dire, c'était, elle me dit, mais moi, je veux pas en finir. Et les jeunes canadiennes avec qui j'ai discuté, je dis, mais c'est normal, en tant que médecin, vous devez, il faut, pour eux, c'est le médecin, ou le soignant d'ailleurs, doit aider à mourir, doit, voilà. Tu sais, il n'y a pas de libre arbitre ou de réflexion du médecin, c'est comme ça. Donc toi, dans 6, 5, 10 ans, comment tu vois les choses ?
Ben, je ne sais rien. Hein. Je crois qu'on est quand même bien placé pour savoir que ça se posera, puisqu'on n'est pas éternel. Hein.
Donc, oui, ça c'est pour nous. Ça.
C'est pour nous, tu vois. On est concerné à court terme pour certains et à moyen terme pour d'autres. Moi, je peux simplement te dire que quand je lis Hans Jonas, je trouve que c'est très beau, c'est de la philosophie comme je l'aime. Quand je lis Tristan Engelhardt, je comprends effectivement que l'autonomie des personnes par rapport au paternalisme des médecins, des fois, ça utile.
Ouais.
Voilà, et que l'auto-administration, il faut voir le détail. Je dirais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les CHU, ça va être comme l'IVG. On va obliger les services publics, pourquoi pas, comme les cliniques privées, à faire des chambres mortuaires. Parce que c'est comme ça que ça se passe pour l'IVG. On fait des IVG dans les hôpitaux, les cliniques en font plus, je ne sais pas. Mais on pourrait, moi je pensais ce matin en arrivant, les chambres mortuaires pourraient reprendre ce marché. On pourrait faire auto-administration aidée par les... évidemment, il faudrait que les pharmaciens acceptent de fournir. Pourquoi ça serait une potion ? Il faudrait quand même qu'ils nous disent ce que c'est la dose. Quoi.
Oui, oui.
Est-ce que c'est une potion pharmaceutique ou est-ce qu'on prend un comprimé de curare comme les nazis et c'est fini, tu vois ? Il faut qu'ils donnent le détail de tout ça.
Oui, il faut connu, inconnu. Mais peut-être que la société savante nous dira ce
que... Ah non, c'est pas une société savante.
Eh bien, cher Claude, merci encore pour ces passionnants échanges, hein, ton avis éthique, hein, parce que tu étais confronté à ça et puis tu as recherché là-dessus. Merci de ta présence et de ta disponibilité et tes éclaircissements.
Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que les auditeurs seront contents.
Mais ça permet, ils sont d'accord, pas d'accord, mais ce qui est important, c'est la discussion. Hein. C'est entamer des voies de discussion pour une réflexion personnelle. Il y a des gens qui sont d'un bord, de l'autre, du milieu, d'en haut, d'en bas, mais ce qui est important, c'est peut-être écouter les autres bords, quoi, hein, et puis se faire une opinion. Enfin, c'est le but de l'émission et des invités que j'invite, quoi. J'ai l'habitude donc de finir cette émission, comme tu le sais, par une rubrique sur la fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Alors, je t'ai demandé un livre, peut-être sur ce sujet. Tu en as lu, tu en as cité déjà deux.
Je peux t'en citer un troisième, qui est écrit et qui a été édité par Actes Sud. Je crois que je l'ai mis, tu pourras donner la référence, qui est un livre de John Elster. Qui traite de tous ces sujets bioéthiques dans une perspective très anglo-saxonne, très, très vivante et super intéressante.
Eh bien, merci infiniment à toi. Alors, je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel et toute l'équipe de Radio Alliance Plus. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.